14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
40 millions de francs de bijoux, c'est le montant du hold-up de la bijouterie Cartier à Cannes hier. C'est l'un des plus importants vols de bijoux jamais commis en France. Ces deux auteurs ont été identifiés par la police. L'un d'eux s'appelle Bruno Sulac. C'est un homme qui aurait déjà participé à la plupart des grands hold-up qui ont été commis depuis un an contre des bijouteries de luxe.
Bonjour. On a souvent raconté que si Arsène Lupin avait un héritier, celui-ci s'appellerait Bruno Sulac. Gentleman braqueur, inclassable, beau comme un acteur de cinéma, intelligent, séduisant, tout aussi bien les femmes que les policiers les plus chevronnés, les juges et les gardiens de prison. Pendant 7 ans, Bruno Sulac va faire tourner en bourrique les meilleurs flics de France, écrire à lui tout seul le scénario d'un incroyable film d'action, avec ses braquages à visage découvert, ses déguisements, ses pseudonymes et ses évasions à répétition. La dernière d'entre elles, qu'il avait imaginée sans tirer le moindre coup de feu, sera son ultime saut dans le vide. C'est cette trajectoire éclair, celle d'un gangster qui ne ressemblait à aucun autre que je vous raconte aujourd'hui. Que cherchait cet homme à travers les braquages? Bien plus que l'argent, sans doute, la griserie de l'aventure. Que sait-on vraiment de lui? Question posée aujourd'hui à nos invités et acteurs de cette histoire.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, Bruno Sulac, le gentleman braqueur. Son nom va émerger à l'automne 78 lors d'attaques de supermarchés pour le moins inhabituelles. Les gangsters se présentent à visage découvert. Ce samedi 14 octobre 1978, dans la matinée, deux caissières de l'hypermarché Mammouth à Albi sont affairées à compter la recette de la veille. Recette record, c'était nocturne pour le grand magasin qui est resté ouvert jusqu'à 22h. Les deux femmes n'ont pas le temps d'en finir avec leurs liasses de billets et de chèques. Deux hommes, jeunes, sportifs, font irruption dans le local. Ils sont armés, ils braquent les employés terrorisés qui les supplient de ne pas leur faire de mal. L'une d'elles tombe même dans les pommes. Les deux hommes restent calmes, ils se veulent même rassurants. D'ailleurs, ils ne sont pas masqués, ni cagoulés. Un brun qui paraît plutôt athlétique, impossible de l'oublier, il porte un sparadrap bleu sous le nez. Et puis un blond, mince, souriant, les yeux clairs, sveltes et musclés. Un beau mec, se souviendra Claudine, l'une des caissières. Le duo embarque la recette et prend la fuite à bord d'une Simca 1100 garée sur le parking client. 293 000 francs de butin. La voiture sera retrouvée avec à l'intérieur le morceau de sparadrap et un blouson. Les deux braqueurs ont gardé l'argent. On apprendra plus tard qu'ils ont détruit les chèques pour que les clients de Mammouth passent un bon week-end aux frais du magasin. Quelques jours plus tard, la PJ de Bordeaux signale un nouveau braquage d'hypermarché commis par deux individus, un brun portant un sparadrap sous le nez et un blond. Deux hommes décrits avec précision et pour cause. Ils ont à nouveau agi à visage découvert. Les policiers s'interrogent sur ce duo qui n'a pas froid aux yeux au point de les montrer à la première caissière venue. La section de recherche de la gendarmerie de Périgueux a deux hommes en ligne de mire repérés pour faire la fête et dépenser sans compter dans les boîtes de nuit. Les dénommés Bruno Sulac et son beau-frère Yves Carillo. C'est le premier qui les intéresse, pas pour d'éventuels braquages dont ils ignorent tout, mais pour désertion de la Légion au printemps 78. Engagé dans les rangs du 2e REP, sous le nom de Bernard Suchon, parachutiste chevronné, champion de chute libre, Sulac s'est vu refuser l'homologation de son record. Il a alors claqué la porte de la Légion. Quelques mois plus tard, 24 février 79, il s'est marié à Patricia, enceinte de 6 mois, la sœur du fameux Yves Carillo. Les gendarmes ont localisé leur déserteur. 4 jours après son mariage, Bruno Sulac est interpellé à 23h30 alors qu'il gare sa voiture devant son pavillon de Boulazac en Dordogne. On lui fait savoir que l'armée le recherche. Il ne paraît pas vraiment inquiet, mais il se fige quand les gendarmes ouvrent le coffre de la Renault 30. Il y a là des armes, 2 revolvers et un pistolet automatique, des munitions, 3 cagoules, des gants, une paire de menottes, la panoplie du parfait braqueur. Dans un sac, 150 000 francs en billets usagés. Sulac dit qu'il rentre d'un braquage au supermarché Montlore de Latte, près de Montpellier. Il invente des noms de complices farfelus. Son complice Yves Carillo est absent. Il se constituera prisonnier 1 mois plus tard. Bruna Sulac est incarcérée à la prison de Montpellier, puis transférée à celle d'Albi. C'est dans cette ville qu'il va bientôt être jugé. Il ne supporte pas la détention depuis le premier jour. Il est obsédé par l'évasion. Yves Carillo se sent lui aussi comme un lion en cage. Les deux hommes se procurent des lames de scie. Pendant des nuits, ils vont limer et découper les barreaux de cet établissement vétuste. Le 24 juin 80, après 15 mois de détention, les deux hommes déroulent une corde et se font la belle en pleine nuit. Ils traversent la cour en courant. Un gardien tire des coups de sommation. Yves Carillo est trop loin du mur d'enceinte. Il est repris. Bruno Sulac, lui, a déjà basculé de l'autre côté. Première fois qu'il se jette ainsi dans le vide. Première cavale. Première fois que son nom apparaît en toutes lettres dans les journaux. Et voilà donc pour les premières années de Bruno Sulac, les premiers mois, son baptême du feu, son baptême de braqueur. Il va vite devenir célèbre et se faire un nom. On va voir tout ça évidemment dans les chapitres suivants. Pour l'instant, on va rester au début de Sulac avec notre premier invité, Philippe Genada. Bonjour.
Bonjour Jean-Alphonse.
Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'Ordre du Crime. Vous êtes journaliste et vous êtes auteur d'un ouvrage qui a fait référence à propos de Sulac, qui s'appelle tout simplement Sulac. C'est paru chez Julliard et je cite votre dernier livre qui est tout à fait passionnant, Au printemps des monstres, éditions Mial et Barreau, qui revient sur l'affaire Lucien Léger. On avait fait une émission excellente d'ailleurs sur cette affaire de Lucien Léger. Philippe Genada, question vraiment basique et très simple. Qui est Bruno Sulac? D'où est-ce qu'il sort, cet énergumène? À l'époque de ses braquages, il a 24 ans.
Bruno Sulac, c'est d'abord quelqu'un, moi, qui ne l'ai pas connu, donc, qui me suis penché sur sa vie et sur... et qui était en contact avec ses proches, qui beaucoup parlait à toute sa famille. C'est d'abord, pour moi, en tout cas, quelqu'un de très mystérieux, c'est-à-dire à plusieurs titres. D'abord, c'était quelqu'un d'assez timide, qui ce qu'on ne dit pas tellement souvent, mais qui peut-être l'autre invité confirmera tout à l'heure, qui bégayait un peu. C'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas un cadeau,
pas forcément sûr de lui, quoi.
Ouais. Qui bégayait un peu et qui pourtant a fait des choses absolument extraordinaires, dans le sens vraiment des choses d'une audace, des braquages d'une audace hors du commun. Et qui pourtant était quelqu'un de gentil, de doux et de même donc de un peu timide. Et puis aussi moi, ce qui m'a fasciné tout au début, et c'est la raison pour laquelle je me suis penché sur son histoire, c'est que c'est quelqu'un qui part d'un point A, qui arrive à un point B 30 ans plus tard. Le point B, c'est l'inverse du point A. C'est-à-dire que le point A, c'est un enfant qui grandit dans une famille attentive, aimante, attentionnée, très présente à la campagne.
Un père militaire,
mais et une mère, des parents très proches. Il grandit près de Marseille, à la campagne. Il a toutes les qualités, cet enfant. Il est beau, il est gentil, il est drôle, il est intelligent. Il sait tout faire. Il sait faire de la couture et du saut en parachute, de la photographie, du roller. 30 ans plus tard, il est recherché par toutes les polices de France. Il meurt dans des conditions dont on parlera tout à l'heure, j'imagine, sordides, vraiment plus que dramatiques. Et entre ce point A et ce point B, il n'y a pas de traumatisme, il n'y a pas de drame, il n'y a pas d'événement marquant. Et moi, je me suis dit, comment on part de l'endroit le plus sûr possible pour arriver...
Oui, parce que là, c'est le contraire de ce qu'on raconte en général. On raconte toujours des enfances terrifiantes, oui. Misérables, des gamins qui ont été battus, dont les parents sont partis. Là, c'est pas du tout le cas.
C'est pas du tout le cas.
Celui-là qui peut réussir dans la vie. Il a plein de choses dans ses mains pour le faire.
S'il y a même quelqu'un qui pouvait réussir, et d'ailleurs, d'une certaine manière... Il a réussi, enfin il a commencé à réussir à sa façon, disons. Mais moi, c'est ce qui m'a, c'est comment un parcours peut prendre des directions aussi inattendues et finalement funestes pour lui, puisqu'il est mort très jeune.
Il est mort très jeune, effectivement. Il y aura 7 ans. La période de son activité, si je puis dire entre guillemets, va durer uniquement 7 ans. C'est un météore, véritablement dans l'histoire du crime. Alors, vous disiez, c'est intéressant que il bégait, Bruno Sulac, mais c'est comme les acteurs qui bégaient, une fois qu'ils sont sur scène, ils ne bégaient plus. Lui, sa scène, c'est le crime, c'est le braquage. Georges Moréas, vous êtes l'ancien patron de l'OCRB, l'Office Central de Lutte Contre le Crime Organisé, et si vous êtes aujourd'hui dans le studio de l'Ordre du Crime, c'est pour une raison bien précise, c'est que vous avez connu Sulac, puisque vous l'avez interrogé à plusieurs reprises, et vous avez pu cerner, approcher le personnage. La première question, elle est là aussi très simple. Un braqueur à visage découvert, c'est pas courant.
Si, on ne peut pas dire ça. C'est l'avantage d'être à visage découvert pour un braqueur, c'est qu'il peut entrer facilement et ressortir facilement. Même si la police arrive, il y a plein de gens qui sortent en même temps, et s'il n'y a pas de masse, s'il n'y a pas de cagoule, on peut se noyer dans la foule. Donc c'est comme il n'y avait pas de caméra à l'époque dans les banques, donc c'était pas si négatif que ça. Donc il y avait des braqueurs qui agissaient à visage découvert, et d'autres qui préféraient mettre des masques, et surtout des masques, disons, un peu, qui font peur, ouais, de manière à impressionner les caissières en particulier, puisque c'était elles qui étaient visées souvent.
On va y revenir évidemment, mais quel est votre souvenir de votre premier contact, j'ai envie de dire physique, avec Bruno Sulac? Vous l'avez en face de vous, vous vous attendez à voir ce personnage? Bel homme, je l'ai dit, enfin c'est charmeur.
Moi j'étais spécialisé dans la lutte contre le grand banditisme avec tous les gens qui étaient à l'OCRB. Donc quand on travaillait sur des braqueurs, sur des équipes, même si on les avait jamais vus, on les connaissait en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on connaissait parfaitement leurs antécédents, on connaissait leur famille, on connaissait leur manière de vivre. On connaissait leur voix souvent parce qu'il y avait les écoutes téléphoniques. Enfin, on avait un environnement très, très...
Vous aviez le sentiment de les avoir approchés.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, ça permettait d'ailleurs, lors d'une garde à vue, d'avoir un contact instantané avec la personne. C'est-à-dire, on lui parlait de choses qu'il connaissait, comme si on l'avait rencontré depuis très longtemps, etc. Donc, il y avait une mise en confiance qui se faisait comme ça. Et la garde à vue avec Bruno Sulac, ça s'est passé dans une...
Il est intelligent,
il a la répartie, il assume ce qu'il fait sans jamais dénoncer ses complices, mais il assume complètement ses actes, et il dit toujours « moi j'ai tué personne, j'ai... Ouais. Il était quand même armé, il faut dire les choses.
Hein. » C'est vrai, mais il le reconnaît, ouais. Il a toujours été armé, il s'en est pas servi, mais enfin il a toujours été armé. Philippe Genada, il y a cette histoire dans l'armée, il a voulu être militaire, je crois qu'il a voulu d'ailleurs être flic, il voulait poser des questions, Georges Moréas là-dessus, sur savoir comment on devient policier, on pourra peut-être en parler, mais il a été militaire, il est rentré dans la Légion, pourquoi est-ce qu'il s'en va? Qu'est-ce qui se passe?
Alors il s'est engagé dans la Légion, son père était légionnaire, son père a d'ailleurs perdu un bras en Indochine, et Bruno, qui se demandait un peu quoi faire de sa vie à l'adolescence, à la fin de l'adolescence, a trouvé qu'il y avait là quelque chose de... C'était quelqu'un qui aimait l'action, qui était très sportif, et puis qui avait aussi des valeurs de groupe, d'amitié, de solidarité, etc. Donc il s'engage dans la Légion. Et puis, je ne sais plus l'année exactement, mais donc ça doit être 78, début 78. Ils ont une permission, il est en Corse, à Calvi, ils ont une permission de 3 jours, mais avec interdiction de quitter l'île, au cas où il y ait tout d'un coup une opération, enfin il y avait quelque chose qui flottait dans l'air, donc il n'a pas le droit de quitter l'île, mais lui, sa famille lui manque, sa sœur, ses sœurs, ses parents lui manquent, donc il se dit, c'est pas grave, je prends le bateau, il va à Marseille, il était à Marseille, et en fait il rate le bateau du retour, il essaye même d'aller à l'aéroport, il n'y a plus d'avion, alors il se dit, bon c'est pas grave, je prendrai quelques jours de trou, en rentrant, ouais. Sauf que c'est ce jour-là que son régiment a sauté sur Colvézi, c'est une opération
vraiment
connue, célèbre. Ils sont tous partis, sauf lui qui est resté là, et ce qu'il a dit, en tout cas, et j'imagine qu'on peut le croire, c'est que la honte
l'a saisie.
Il ne s'imaginait pas rentrer piteux, penaud, alors que tous ses copains, dont plusieurs sont morts lors de cette opération, sont allés se battre sans lui. Et donc à partir de là, c'est un des premiers petites choses qui déclenchent un changement de trajectoire dans sa vie. Il devient déserteur, ce qui n'est pas un crime atroce, mais ce qui quand même l'oblige à vivre dans la clandestinité à partir de là, parce que son honneur, ou c'est ce qu'il a dit en tout cas, son honneur l'a empêché de réintégrer son régiment.
Georges Moréas, c'est intéressant ce que dit Philippe Genada, et notamment sur la famille. Mmh. Il est très attaché à sa famille Sulac, et on va voir, hein, mais ça va le perdre aussi. Hein, c'est un petit peu son talon d'Achille.
Oui, certainement. C'est un aventurier, Bruno Sulac. C'est plus un aventurier qu'un bandit, si on peut dire.
Ouais. Hein,
si on veut comparer entre un pirate et un corsaire, vous voyez la différence qu'il peut y avoir. Donc, lui, il avait ce goût du risque. Et comme il était dans la clandestinité, ce risque, il l'a traduit par des attaques à main armée, ce qui était finalement le plus facile pour lui, parce que ça ne demande aucune préparation, du moins au départ. Il faut juste être assez gonflé pour le faire, hein, et puis prendre des risques et accepter les risques que ça rend coup, qui peuvent suivre après, évidemment. Mais il avait en même temps ce besoin de vivre comme tout le monde. C'est-à-dire que c'était pas un marginal. C'est-à-dire on a beaucoup de truands qui vivent dans la marginalité, qui vivent comme des malheureux, comme des rats, on peut dire, parce que ils sont toujours en train de se cacher, etc. Lui, il avait besoin d'avoir une vie sociale. Donc il avait sa famille, il avait une vie sociale, il avait ses amours, etc. Il avait ses cartes de visite, enfin il avait tout ce qu'il fallait.
Bruno Sulac est en cavale, parti pour de longs mois de clandestinité. Pas question pour lui de retourner en prison, il peut compter pour cela sur des amis sûrs, séduit par cet ancien légionnaire à qui tout réussit. Au 36 quai des Orfèvres, la photographie de Bruno Sulac figure en bonne place dans les bureaux de l'OCRB, l'Office central de la répression du banditisme. Le voyou est impossible à localiser. Il se déplace sous de fausses identités, des pseudos qui vont de Christophe de Bourges jusqu'à Juan Felipe Diaz, en passant par Hervé Cossard. La police identifiera au total 8 faux passeports et cartes d'identité. L'homme échappe à tous les contrôles, même s'il prend tous les risques. Le 24 août 1980, il fait libérer le truand marseillais Jean-Louis Segreto de la prison de Montpellier. Un complice s'est présenté à visage découvert au parloir. Sulac, cette fois cagoulé, lui a emboîté le pas et a surpris tout le monde. Il a braqué un surveillant et s'est fait conduire jusqu'au couloir des cellules. Il a fait ouvrir celle de Segreto, puis a insisté pour qu'on l'emmène jusqu'à celle du dénommé Yves Carillo, son ex-beau-frère, le compagnon des premiers casses. Raté, Carillo était depuis la veille consigné au mitard pour avoir empoigné un surveillant. Sulac avait promis à ses amis qu'il viendrait les chercher. Il a tenu parole, même s'il ne repart qu'avec un seul de ses détenus. 25 janvier 1982, après 2 ans de cavale, l'OCRB a bon espoir de mettre la main sur l'infernal Bruno Sulac. Malgré la clandestinité, le truand n'a jamais coupé les ponts avec sa famille. Les policiers ont ainsi placé sous étroite surveillance sa sœur Pauline, venue s'installer à Paris. Ce jour-là, à midi, ils font irruption dans un studio au 151 avenue de Suffren. À Paris, Sulac y est surpris avec Tali, sa dernière maîtresse. Sur place, les enquêteurs découvrent une montagne de faux papiers, des armes, une balance de diamantaires, de l'argent liquide, un brevet de pilote d'hélicoptère obtenu sous un faux nom. Le commissaire Georges Moréas a enfin face à lui cet homme qu'il pourchasse depuis des mois. Entre le flic et le truand, l'interrogatoire prend plutôt l'allure d'une conversation détendue. Georges Moréas dira de Sulac qu'il était davantage un aventurier qu'un authentique bandit, parlant avec aisance de tout et de rien, charmeur et volontiers amical. Même si le policier se méfie, lors des auditions, le regard de Sulac se porte en effet obstinément sur la fenêtre. Il est donc menotté à un radiateur. Le truand, conscient qu'il serait sûrement condamné à de longues années de prison, prévient le policier « N'ayez crainte, je m'évaderai ». 21 juillet 82, 6 mois après cette prédiction, Bruno Sulac est jugé pour avoir fait évader le truand marseillais Jean-Louis Segreto. Il écope de 3 ans de prison. Quelques jours plus tard, 19h30, lors d'un transfert en train qui l'emmène menotté de Montpellier à Lyon, 2 hommes surgissent dans le compartiment du corail. Des coups de feu sont tirés en l'air. Les 5 gendarmes de l'escorte sont tenus en joue, contraints de libérer leurs prisonniers. Sulac actionne lui-même le signal d'alarme du convoi qui s'immobilise dans la petite gare de Valergue. Le trio s'enfuit à toutes jambes, braque 2 automobilistes sur une petite route, puis se fond dans le soir qui tombe. Sulac vient de réussir sa 2e évasion. 5 mois plus tard, il ressurgit à Cannes, hold-up en plein jour à la bijouterie Ferré. Le patron et un employé menacé par un homme blond, calme et souriant. Montre, bague, pendentif, raflé en 5 minutes. Puis 2 bijouteries attaquées à Paris, à visage découvert. Sulac est accompagné par un nouveau complice, un grand brun. Il va falloir du temps pour identifier ce colosse qui s'affiche pourtant sur tous les écrans de cinéma. Il vient de tenir un petit rôle de flic dans Le Professionnel avec Belmondo, dont il est le garde du corps occasionnel, un certain Radisa Jovanovic, que tout le monde surnomme Steve. Sulac et Steve deviennent alors l'équipe de braqueurs la plus recherchée de France. Georges Moréas, ancien patron de l'OCRB, je parlais de vous à l'instant, notamment avec ce premier interrogatoire. On l'a rapidement évoqué dans la première partie de cette heure du crime. Il vous dit, Sulac, commissaire, vous me reverrez pas parce que là, je vais pas rester, je vais pas passer beaucoup de temps en prison, je vais partir.
C'est ça, grosso modo, au moment de, à la fin de sa garde à vue, il dit de toute manière, oui, je m'évaderai. Enfin, je connais, je me rappelle plus les termes exacts, mais c'était à la fois en souriant, mais en même temps, on pouvait comprendre que c'était sérieux, que c'était un type qui supportait pas la prison. Donc, de toute manière, il ferait tout pour s'évader. Et il l'a montré par la suite, bien entendu. Donc ça, on savait qu'il y avait un risque. Alors, il a profité d'un système, je pense qu'il l'a provoqué en quelque chose. C'est-à-dire, à l'époque, il n'y avait pas de centralisation des affaires. Les juges d'instruction, chaque juge d'instruction gardait son dossier. Et donc, il a été transféré juste pour une histoire de chèque, ou je ne sais pas quoi, enfin, une broutille, vraiment. Donc, on peut penser que
c'était... Pour aller à Lyon, c'est ça.
Hein. Oui, c'est ça. On peut penser que c'était un peu... prémédité son histoire, c'est-à-dire qu'en fait il savait qu'il allait être convoqué pour quelque chose de pas très sérieux et que de toute manière il irait dans un tribunal où il serait moins surveillé que dans une prison ou dans un grand tribunal et qu'il y avait le transfert en plus par le train puisque à l'époque les transferts se faisaient par train et accompagnés par des gendarmes. Donc il y avait toute une opportunité qui s'offrait à lui.
C'est important ce que vous dites, Georges Moréas, parce que ça veut dire qu'il y a un calcul chaque fois chez Sulac. C'est pas à courte vue, c'est-à-dire qu'il y a toujours un coup d'avance finalement.
Non mais c'était un truc, oui c'est vrai, mais Jacques Mesrine a fait exactement la même chose.
Quand il
s'est évadé de Compiègne, c'était pour une histoire de chèque sans provision ou d'abus de confiance, je ne me rappelle plus, qu'il avait provoqué lui-même. Donc c'était vraiment un truc de truand pour se donner une opportunité de s'évader.
Qu'est-ce que vous vous dites quand vous apprenez que ça y est, il s'est à nouveau fait la belle, dans des conditions d'ailleurs extravagantes, dans ce train corail, c'est quand même rare de s'évader d'un train comme ça en marche. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites, ça y est, c'est reparti, on se remet au boulot?
Oui, enfin, on n'avait pas rangé les dossiers. En fait, c'était...
Vous aviez anticipé.
Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il m'avait dit, tu sais, tu ranges pas mon dossier, je vais m'évader ou un truc comme ça. Enfin, donc c'était pour plaisanter ça, mais c'est vrai que le dossier était toujours là. On savait, de toute manière, il y avait encore du travail dessus, il y avait des complices à trouver, etc. Donc ça, pour nous, ça n'avait pas d'importance. On connaissait bien le personnage. Les policiers ne sont pas des juges, hein, donc ils sont là pour arrêter des gens, pour établir des preuves,
bien sûr,
etc. Puis après, c'est à la justice de faire son job. Donc nous, on avait tout ce qu'il fallait, on allait repartir à la chasse à Bruno Sulac. Voilà.
La chasse au Bruno Sulac. Philippe Génalda, journaliste et auteur de Sulac, le bouquin paru chez Julliard il y a quelques temps déjà. Je fais allusion à Steve, là, Radisa Jovanovic, ce Serbe, enfin à l'époque c'est un Yougoslave, qui surgit dans le décor. Ça va être, il faut nous parler un peu de Steve, Philippe Génalda, parce que c'est un homme très important dans la trajectoire de Sulac.
Oui, c'est un personnage
incroyable.
C'est
pas uniquement un second couteau.
C'est un personnage incroyable dont des gens parlent encore aujourd'hui. Moi, je vois dans le bistrot en bas de chez moi, il y a une petite communauté serbe, monténégrine. Ils parlent de Steve comme on parle d'un héros, en fait. Ouais, c'est un Yougoslave qui est venu avec les premiers déplacements de Yougoslaves au début des années 70, qui s'appelait en réalité Novika Zivkovic. Radisa Jovanovic, c'est son pseudonyme quand il travaillait avec Belmondo, etc. Et il a un troisième pseudonyme qui est Steve, qui est resté connu sous ce nom-là. Et donc c'est un ancien boxeur et comme Jean-Paul Belmondo aimait beaucoup la boxe, Belmondo assistait à ses combats de boxe, ils se sont rapprochés. Steve a eu un problème au bras, je crois, il s'est blessé au bras, il a dû arrêter la boxe, mais il est devenu un peu garde du corps de Belmondo. Et surtout, Belmondo l'a fait jouer dans Le Professionnel.
Ouais.
Et alors, à ce moment-là, Steve est déjà recherché par la police.
Mais c'est ça qui est incroyable.
Et c'est incroyable parce que dans Le Professionnel, il joue un... Et là, Georges va pouvoir dire que ça doit être assez rare. Il joue un policier en uniforme, de base. Il a une énorme montre en or qu'on voit sur un plan. On le voit discrètement. Il y a une réunion de policiers. Et il a sa main comme ça. Et on voit, c'est une Rolex ou je sais pas quoi. Ce qui, pour un policier de base, doit être assez, assez rare. Et puis, il est dans la toute dernière scène du film qui est restée célèbre quand Jean-Paul Belmondo se fait abattre près d'un hélicoptère. Il est là, et alors l'ironie de la vie et du destin, c'est que Steve va perdre la vie, mourir lui aussi près d'un hélicoptère essayant de sauver son ami. C'était plus qu'un ami, hein. C'était vraiment...
C'est une scène prémonitoire et très étonnante d'ailleurs, hein, quand on y pense.
C'était vraiment le frère de Bruno Sulac, ça a abattu Bruno Sulac. La mort de Steve a vraiment été un drame absolu pour Bruno. C'était son alter ego, son frère, son âme sœur, enfin c'était vraiment, ils étaient vraiment tous les deux. C'est pour ça qu'ils ont tout fait ensemble. Il y a y a quelques autres personnes qui ont fait des coups avec eux, comme par exemple ceux qui les ont fait évader du train, mais qui n'étaient pas tous des anges. Moi, j'en ai rencontré un. Ah. C'est pas dans le genre Bruno Sulac, gentil garçon, etc. C'était des durs, quoi, des féroces. Steve, non. Steve et Bruno, c'était vraiment une sorte de binôme.
Ouais.
Qui a été fracassé, mais en même temps, voilà, ils ont mené la vie
à la vie, à la mort. Georges Moréas, ce Steve, vous le voyez apparaître chez Cartier à Paris. On le voit, visage découvert. Et vous avez un mal fou à savoir qui c'est. Et pourtant, il n'est pas loin, il est au cinéma.
Oui, on a eu du mal à l'identifier. Pendant longtemps, on a travaillé d'ailleurs sur une photo tirée du film de Belmondo, parce qu'on n'avait pas sa photo. Donc, c'était une photo pas très bonne, un peu, qui était tirée du film. Et c'est vrai qu'on a eu du mal à l'identifier. On l'a identifié. Par des renseignements humains.
En fait, c'est quelqu'un qui dit, c'est un receleur, je crois, parce que l'histoire, elle est un peu connue, et c'est un receleur qui vous dit, je crois, ce Steve, il m'a dit qu'il faisait du cinéma, c'est ça? Ça vous met la puce à l'oreille.
C'est-à-dire qu'il y avait toute une filière, évidemment, pour écouler les bijoux, les pendentifs et autre chose comme ça. Donc il y avait toute une filière. C'est dans cette filière qu'on a recherché, si vous voulez, des renseignements et qu'on a identifié Steve, effectivement.
Oui, parce que là,
je ne sais pas si c'est la bonne.
Allez-y.
C'est pas une jeune femme, moi, j'ai entendu dire.
Oui, mais ça, c'est.
Parce que c'est un grand séducteur. Bon, c'est une légende, peut-être. C'est un grand séducteur et une femme un peu blessée d'avoir été rejetée.
Ouais. Aurait vendu la mèche, c'est ça?
Oui.
Ça, on n'en parle pas.
Georges Moréas, il y a prescription, on peut le dire aujourd'hui.
Hein non, c'est... Mais en fait, effectivement, c'était un séducteur et qui a fait du mal, qui a brisé le cœur de pas mal de femmes, et donc certaines ont voulu se venger. Voilà.
Sulac et Steve, ces deux hommes vont devenir les bêtes noires des policiers et des bijoutiers, complètement désarmés face à ce duo qui prend tous les risques et agit avec une incroyable insolence. 21 janvier 1983, le quartier des Champs-Élysées est en partie bloqué et fourmille de policiers. Le président François Mitterrand reçoit le chancelier allemand Helmut Kohl. C'est justement le jour choisi par Bruno Sulac et Steve Jovanovich pour dévaliser la bijouterie Van Gold. Le fric-frac n'a duré qu'une poignée de minutes, main basse sur des montres hors de prix. Le butin avoisinerait les 13 millions de francs. Une semaine plus tard, le duo frappe à quelques rues de là, avenue Montaigne, la bijouterie Cartier. Le personnel décrit deux hommes qui se sont présentés comme des clients. Ils ont calmement sorti leur pistolet. Pas du tout agressif, poli, mais déterminé. 10 millions de francs de préjudice. 1 milliard sans un coup de feu, titre un journal. La photo de Bruno Sulac, toujours la même, regard pétillant et sourire en coin, s'affiche à la une. Après le hold-up de chez Cartier, le braqueur se paie le luxe de téléphoner au commissaire Moréas. « Tout va comme tu veux ?» questionne Sulac, qui propose même au policier de lui remettre une montre Cartier pour son épouse. Rendez-vous sans suite, Sulac raccroche et disparaît jusqu'au prochain coup. 19 août 1983, boulevard de la Croisette à Cannes. Un client qui fréquente depuis quelque temps la bijouterie Cartier entre dans sa tenue habituelle, polo blanc Fila, basket Diadora, un sac d'où dépasse une raquette. Ce client passionné de tennis, qui raconte qu'il admire par-dessous tout Bjorn Borg, est à Cannes pour perfectionner son revers. Il est déjà client Cartier, pour preuve. Il porte une bague volée, avenue Montaigne. Il demande à voir un briquet panthère, serti d'émeraude. Une pièce qui le fait rêver et l'attire depuis un bon moment. La vendeuse s'occupe de lui. Le directeur sert un autre client, un grand brun à l'accent étranger qui cherche une montre. Au même moment, les deux hommes dégainent leurs pistolets automatiques. Les vitrines sont vidées, les coffres-forts ouverts, les voleurs prennent tout leur temps. Le hold-up va durer une éternité, pas moins de 10 minutes avant que l'alarme retentisse au commissariat. 40 millions de francs de butin, soit 12 millions d'euros, un record. Sulac et Steve embarquent dans un jet privé, direction Paris-Le Bourget, puis le Brésil pour Bruno Sulac, soucieux de se faire oublier. Georges Moréas, vous êtes aux premières loges, non pas à ces hold-up, vous n'y êtes pas évidemment, vous y assistez de loin et vous constatez les dégâts, évidemment vous êtes sur la traque de Bruno Sulac. Il vous appelle au téléphone, Bruno Sulac, c'est quand même un sacré culot.
Oui, il était culotté, il faut dire. Rien que ce braquage que vous venez de décrire le montre bien. Nous, on comptait les coups, hein, parce qu'on ne savait pas où il allait taper, évidemment. Et quand il revient de son périple, je pense au Brésil, on n'a pas beaucoup d'éléments sur ce qu'il a fait là-bas, ce qui s'est passé. La police, en tout cas, n'avait pas beaucoup d'éléments. Et il m'appelle comme pour me dire, ça y est, je suis rentré de vacances, tout va bien.
C'est incroyable. Et donc, il vous tutoie, il vous propose même une bague pour votre épouse.
Oui, enfin, il y a un contact qui s'établit, effectivement. Je sais pas, bon, il est beaucoup plus jeune que moi, mais en même temps, je sais pas, on parle un peu le même langage, donc ça c'est ça. Oui, le courant passe bien, disons.
J'ai envie de vous demander pourquoi est-ce qu'il vous appelle finalement? Parce que bon, hormis le fait de fanfaronner et de vous narguer, mais ça a pas l'air d'être trop le cas.
Non, c'était pas ça, non.
Pourquoi? Il a envie d'être rassuré, d'entendre une voix amicale.
Je crois qu'il. Bon, à la fois peut-être en appelant les policiers qui le savaient, ils savaient très bien qu'on était à sa recherche, qu'on passait quand même beaucoup de temps sur son dossier. Peut-être il venait un peu à la pêche aux renseignements. C'était difficile de lui donner des renseignements, bien entendu, c'était même exclu complètement. Mais en même temps, moi j'ai eu l'impression à un moment, puisqu'il m'a quand même appelé plusieurs fois, au début j'ai été surpris, puis après, je vais pas dire que j'attendais ses appels, mais je m'y attendais, donc je m'étais fait mettre un petit enregistreur pour enregistrer la voix, tout ça. Je me suis dit, on sait jamais s'il me dit quelque chose, que ça soit une trace, tout ça. Et je crois qu'il avait envie de changer de vie, très honnêtement. Dire qu'il cherchait des conseils, mais un petit peu quelque part, il savait pas. Dans son milieu, il ne pouvait pas évidemment avoir de conseils, ni de ses complices, ni de ses amis, ni de sa famille, parce que d'une certaine manière, sa famille le protégeait, bien entendu. Donc, il avait besoin d'un avis neutre. Deux fois de suite, il m'a dit « on va se voir ». Il m'a donné rendez-vous dans un café, pas très loin de l'office. Bon, il n'est pas venu à chaque fois. Après, il m'a appelé, il m'a dit « je t'ai vu, mais je ne suis pas venu, j'ai eu peur que tu me... » Bon, il avait raison d'avoir peur quand même, mais voilà.
D'accord. Il avait besoin effectivement d'avoir un trait d'union et peut-être d'exprimer sa lassitude. Philippe Janada, je parlais de ce hold-up quartier à Cannes. Alors ça, c'est vraiment un hold-up qui est rentré dans les annales du crime, j'ai envie de dire.
Oui, comme d'autres. Il y a un autre hold-up, un autre braquage très célèbre qu'ils ont fait avec Steve. C'est pendant la visite de Helmut Kohl à Paris. Helmut Kohl et Mitterrand remontent les Champs-Élysées. Donc évidemment, il y a des centaines et des centaines de policiers de chaque côté des Champs-Élysées. Et eux choisissent cet endroit-là pour braquer, au moment où ils remontent, pour braquer une bijouterie. Steve dit à Bruno, t'es complètement fou. Et l'autre lui dit, non, s'il y a bien un endroit où on ne va pas nous soupçonner de braquer une bijouterie. Et même Steve se met devant la bijouterie avec un talkie-walkie pour prévenir Bruno s'il se passe quelque chose. Et tout le monde pense évidemment que il fait partie des forces de l'ordre, il fait partie des... Et ils partent à pied au milieu des policiers avec leur sac, pardon. Ils s'éloignent avec un sac rempli de bijoux. Et ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à ce que disait Georges Moréas, que lui ne dirait peut-être pas, mais je pense qu'il y avait une véritable estime de mutuelle sans doute, mais en tout cas de la part de Bruno, et puis aussi un regard, il y a un coup de fil, je crois, enfin je parle sous votre contrôle Georges, mais qui est vraiment important, c'est le dernier braquage de Bruno Sulac qui passe à deux doigts de très mal se dérouler. C'est à Thionville, la police arrive un peu par hasard, et donc Bruno Sulac et Steve sortent avec une grenade à la main. Et là, Bruno se rend compte qu'il s'en faut vraiment de rien pour qu'il y ait un drame, un véritable drame, qui tue quelqu'un, même ils prennent un otage. Et je pense qu'après, il vous téléphone et que là, il a besoin d'un regard presque paternel pour lui dire, t'as assez déconné, ça suffit, stop. Et effectivement, c'est son dernier braquage.
Exilé au Brésil, Bruno Sulac a le mal du pays. Il va bientôt se retrouver à court d'argent. Il lui faut rentrer. Un retour qui devait être une formalité, mais qui va se transformer en tragique aventure. Ce 9 février 1984, Bruno Sulac se présente au poste frontière de Biriatou, entre la France et l'Espagne. Il est muni de faux papiers, mais ignore que la Mercedes qu'il a achetée en Espagne est déclaré volé. Il est détenu à la maison d'arrêt de Bayonne. Il a donné un faux nom, invérifiable. Pendant 15 jours, personne ne fait le rapprochement avec le braqueur numéro 1. Il s'apprête même à être remis en liberté après avoir payé une amende et reçu une convocation pour se présenter devant un tribunal. Mais à quelques heures de l'échéance, en consultant les fiches de la police aux frontières, la PJ parisienne l'identifie. Bruno Sulac est alors transféré à la prison de Gradignan, à Bordeaux. Une cellule individuelle au barreau renforcé. Le détenu est confiant. Il peut compter sur ses amis à l'extérieur pour le sortir de là. Steve, le complice de toujours, établit un plan. Tout est calculé. L'évasion se fera par les airs. Un mois pile après l'arrestation, Steve loue un hélicoptère sous le nom de Grégory Fanelli, photographe pour un magazine. Mais le plan de vol qui survole la prison de Gradignan intrigue les autorités. Quand Steve se présente à l'héliport, il s'aperçoit qu'il est attendu, il fait feu avec son 357 Magnum, la police riposte. Steve est abattu de 2 balles. La nouvelle m'a atteint comme une balle en plein cœur. Elle ne valait pas cela, ma liberté. Ce n'était pas comme je croyais, ce n'était pas un jeu, écrira Bruno Sulac. 20 mars 84, Bruno Sulac se retrouve devant la cour d'assises du Tarn, à Albi. La foule est venue voir Arsène Lupin, la terreur des bijoutiers, le dévaliseur de chez Cartier. C'est cependant pour son premier hold-up, celui du mammouth d'Albi, qu'il est jugé. Tous les regards sont pour lui, blouson de cuir et jean. On en oublie le deuxième accusé, l'ex-beau-frère Yves Carillo, qui vient de passer 5 ans et demi en prison. Sulac amuse le public, exonère son complice de toute responsabilité, ironique et blasé. Sauf quand il parle de Steve, je suis mort aussi dans ce guet-apens mis en place pour tuer de sang-froid et non pour arrêter. Sulac est condamné à 9 ans de réclusion, 7 ans pour Carillo. Philippe Janada, auteur de Sulac, un bouquin paru chez Julliard et qui raconte la vie de ce bandit hors norme. La cassure, on peut dire chez Sulac, c'est la mort de Steve ? Là, il y a un point de non-retour, on a l'impression.
Oui, comme on disait, je pense que la cassure a commencé enfin, à se fendiller ses résolutions et la vie qu'il avait choisie à se fendiller un peu avant, depuis Thionville. Mais là, c'est vraiment... là, je crois qu'il résume parfaitement. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas un jeu. Son frère, son alter ego est mort en voulant le sauver. En plus, Bruno est persuadé que c'est un... Comme il le dit, que c'est un guet-apens, donc que c'est vraiment très directement de sa faute. Donc là, c'est fini pour lui. Après, il va quand même avoir encore la ressource pour tenter de s'évader, pour s'imaginer une nouvelle vie. Mais là, je crois qu'il y a vraiment son avocate disait, elle va le voir en prison après la mort de Steve. Il ne s'arrêtait plus de pleurer, quoi. C'est elle qui a dû lui dire, l'engueuler un peu, lui dire, maintenant, stop. Arrête de pleurer, c'est pas comme ça que tu vas pouvoir te présenter au procès. Mais pour lui, c'est un effondrement total. C'est-à-dire, et puis il doit se sentir un peu, pas responsable évidemment, mais lié au sort de son ami.
C'est ce qu'il dit d'ailleurs, c'est ma liberté qu'il a essayé de me restituer, mais finalement il a perdu la sienne, il a perdu la vie. Il était parti au Brésil, on l'a dit, Bruno Sulac, il voulait vraiment refaire sa vie là-bas ?
Oui, alors moi, tout ce que me dit sa famille, ses proches, c'est que c'était définitif. Il avait arrêté les braquages vraiment. Il voulait s'installer au Brésil, tout était prévu, il s'installait vraiment là-bas. Il est revenu en France uniquement parce qu'il avait des... On n'a jamais retrouvé son butin, les millions et les millions de diamants, de montres, etc. qu'il a...
Jamais.
Jamais. Enfin, à part ce qui a été revendu par des receleurs. Mais lui, sur ses millions, par exemple, le fameux briquet Panthère de chez Cartier... On ne sait pas officiellement, on ne sait pas où il est, on l'a jamais mis la main dessus. Et donc il revenait en France simplement parce qu'il avait des bijoux cachés et qu'il voulait les prendre pour les ramener au Brésil et qu'on n'aurait plus jamais entendu parler de lui. Et là, le hasard, encore une fois, le mauvais sort a voulu qu'il se fasse arrêter au volant d'une voiture volée alors qu'il ne savait pas qu'elle a été volée. Mais donc lui, je pense très sincèrement, et sa famille le dit et le croit, et moi aussi, que sa carrière, entre guillemets, de malfaiteur était terminée.
Georges Moréas, évidemment, il est sous les barreaux et sous bonne garde. Il était l'homme le plus recherché de France, Sulac. Hein. Sa photo était affichée partout. Il va devenir aujourd'hui l'homme le mieux gardé de France. C'est pas facile pour lui. Vous le disiez tout à l'heure, il déteste... Enfin, qui ne déteste pas la prison, mais il ne supporte pas la détention.
Ben, il ne supportait pas la détention. Et en plus, il s'est retrouvé à Fleury-Mérogis, qui est une prison qui était une prison...
Très dure.
Dure en ce sens qu'elle était très... comment on peut dire, très froide. C'est-à-dire, c'était relativement moderne à l'époque, et c'était très froid, très tout automatisé, etc. Donc, il y avait une grande solitude, je pense, et pour lui, qui devait être un peu en dépression, d'après ce que dit M. Janada, ça va être difficile à supporter, effectivement.
Il vous appelle à ce moment-là?
En prison,
c'est vrai qu'à l'époque, il n'y a pas de portable.
Non, pas du tout.
Mais en tout cas, il ne rentre pas en contact avec vous.
Il se met à écrire en prison. Il commence à écrire. Il a écrit des chroniques dans un journal qui commençait, qui s'appelait L'Autre Journal. Dans les trois premiers numéros, des choses très belles sur le Brésil, notamment. Des choses très belles, encore un peu, pas de débutant, mais on sent qu'il... Et d'ailleurs, il a dit, finalement, au lieu de faire braqueur, j'aurais dû faire écrivain pour être dans la marge, mais toléré. Je confirme, on est mieux dans la marge en tant qu'écrivain qu'en tant que braqueur. Mais... Il voulait vraiment changer de vie, je pense. Ouais.
Et alors, on n'a pas évoqué, mais à son procès, finalement son dernier procès, puisqu'on ne le verra plus en public, c'est un showman quand même. Hein. Il assume sa popularité, sa célébrité, mais qui le gêne absolument aussi, parce qu'il est finalement il est sous les feux de tout le monde.
Oui, c'est-à-dire que là, il sait que, par exemple, le tout premier procès, le seul pour lequel il a été vraiment jugé, c'est un supermarché en 78, il prend 9 ans. C'est-à-dire qu'il prend 9 ans, je pense que s'il avait pas, normalement, la justice ne doit pas tenir compte de ce qu'il a fait ensuite. Mais donc, il savait qu'il allait être jugé, il avait plus de 20 affaires, je pense, encore à passer, donc il savait qu'il allait en prendre pour des dizaines d'années au total.
Et qu'il serait jugé, évidemment, sur son image. La prison se referme sur Bruno Sulac. Une nouvelle fois, il va tout mettre en œuvre pour en sortir au plus vite. « Sentirait, s'est-il juré, le moindre coup de feu ?» Après le procès d'Albi, Bruno Sulac est transféré à la prison de Fleury-Mérogis, quartier des DPS, les détenus particulièrement surveillés. Il a le sentiment d'y devenir fou. Il veut s'évader. Des amis sont prêts à lui faire passer des armes, mais il refuse. Il ne veut pas le moindre coup de feu. Il agira par ruse, persuasion et surprise. Après 6 mois de détention, il s'est ainsi mis dans la poche un gardien, Marc Medj, comme envoûté par le détenu. Il était fin, intelligent, rapide comme un félin, dira Medj. Un sous-directeur, Thierry Snitter, est également compatissant avec ce braqueur qui raconte de belles histoires et n'aime pas les armes. Le 17 mars 1985, sa sortie est organisée. Il est prévu que le gardien fasse diversion et que le sous-directeur embarque Sulac dans sa voiture. Tout se déroule comme prévu jusqu'à ce qu'une porte fermée interdise aux détenus d'entrer dans le bureau où il doit s'enfuir par une fenêtre. Il est piégé, se réfugie au deuxième étage, se cache dans une armoire. Repéré par des surveillants, il sort, court vers la fenêtre et bascule dans le vide. Il est 23h15, on le retrouve, le crâne fracassé.
Bruno Sulac a été transporté à l'hôpital le plus proche de Fleury-Mérogis, celui de Corbeil, où il a subi ce matin l'ablation du rein et de la rate. Les médecins d'ailleurs réservent leur diagnostic, d'autant plus que le foie a été touché.
Bruno Sulac ne va pas survivre à ses blessures, mort à 29 ans. La famille Sulac ne croira jamais à cette fin accidentelle, persuadée que Bruno avait été poussé dans le vide. Une enquête exonérera les surveillants d'avoir provoqué la chute. Le braqueur au visage découvert repose au cimetière de Thiers, dans le carré réservé à l'administration pénitentiaire. Philippe Génada, auteur de Sulac, un bouquin paru chez Julliard et qui raconte la vie de ce braqueur. Cette fin, elle pose beaucoup de questions, même aujourd'hui. Il y a eu une enquête, etc. On ne sait pas vraiment comment il est mort, Sulac.
Il y a eu une enquête, il y a eu deux reconstitutions. Je pense que la famille a déposé plainte, ou en tout cas s'est constitué partie civile. La famille de Bruno, c'est-à-dire en particulier sa sœur, ses parents, ont toujours été convaincus, aujourd'hui encore, que ce n'est pas une mort accidentelle, que ce n'est pas non plus un suicide, parce que ça a été évoqué, que se voyant coincé, et sachant que sa tentative d'évasion allait rater, qu'il s'était jeté volontairement par la fenêtre. La vérité doit être quelque part par là, c'est-à-dire que c'est les gardiens l'ont empêché de sauter.
Eux, ils disent qu'ils l'ont retenu.
Ils l'ont retenu, ouais, mais du coup, il est tombé, parce que Bruno pouvait sauter, c'est un parachutiste, il pouvait sauter du deuxième étage et se réceptionner en sifflotant. Donc ça veut dire qu'il est tombé la tête la première. Pour qu'il soit tombé la tête la première, il faut qu'il l'ait retenu, mais ça voudrait dire qu'il se soit dit, bah tant pis, je plonge la tête la première. Enfin, c'est assez flou, mais évidemment, on ne saura jamais. Je pense, en tout cas, selon moi, la théorie selon laquelle il aurait été battu à mort, puis jeté par la fenêtre, je pense que ça ne tient pas avec l'autopsie et tout ça, mais la famille pencherait plutôt vers quelque chose comme ça. Mais
vu le faible temps aussi qui s'est passé, pas le temps de battre quelqu'un à mort et de le jeter.
Oui,
par la fenêtre.
On ne sait pas trop, hein. Mais non, moi je pense que voilà, il y a un moment. Mais parfois, il faut prendre une décision en un dixième de seconde. Il a dû, même s'il savait qu'il allait tomber la tête la première, il a dû peut-être penser qu'il allait pouvoir se rétablir quand même. Et surtout, il a dû voir son avenir enfermé là-dedans. Il a dû tenter le tout pour le tout, je pense.
Il n'y a pas une tentative de suicide, non ?
Moi, je ne crois pas, non. C'était quelqu'un de vraiment de vivant, quoi, avec une énergie, une force de vie. Donc, moi, je ne l'imagine pas du tout en train de... Puis s'il avait voulu se suicider, il n'aurait pas attendu que les gardiens arrivent pour l'attraper. Hein.
Bien sûr. Georges Moréas, vous qui avez rencontré à plusieurs reprises Sulac et avec qui vous avez conversé même au téléphone lorsqu'il était en cavale, incroyable ce charisme tout de même. Il arrive à séduire, il n'y a pas d'autre mot, séduire un gardien, séduire le sous-directeur de la prison. C'est un prestidigitateur, celui-là. Ouais.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le fait qu'il ait été battu ou poussé par la fenêtre ne tient pas, parce que c'était un prisonnier modèle, en quelque sorte. Il n'embêtait pas les gardiens, et au contraire, il était d'un bon contact, etc. Donc il n'y avait aucune raison pour les gardiens de vouloir l'éliminer. C'était pas un emmerdeur, quoi, pour être très clair. Et là, il n'a pas eu de chance, quoi. Il a séduit les gardiens par son charme, par son physique, par son bagou, par ses histoires qu'il racontait très bien. Je pense qu'il leur a promis de l'argent aussi, beaucoup d'argent. Et ensuite, sa baraka, il a toujours eu la baraka, et quand il est rentré dans ce bureau, sa baraka s'est refermée derrière la porte. Il s'est mis dans un placard, manque de peau, c'était l'endroit où il y avait la machine à café. Les surveillants sont entrés pour boire un café, ils ont entendu un bruit, tout s'est enchaîné comme ça. C'était un concours de circonstances qui a fait, on peut supposer, comme ça vient d'être dit, qu'il a essayé de sauter par la fenêtre, et il pouvait le faire certainement, comme ancien parachutiste, et qu'il est parti en déséquilibre. Donc, voilà. Fin de l'histoire.
Ouais, donc vous ne croyez pas, vous, à quelque chose de volontaire, non. Évidemment, vous dites, c'était un détenu modèle et il savait se mettre...
Il n'y avait vraiment aucune raison, quoi.
Oui, les gens dans sa poche, et il ne la ramenait jamais. En tout cas, c'est ce que disent les gardiens de l'administration pénitentiaire.
Sa famille l'attendait au Brésil. Sa sœur et son amoureuse l'attendaient, étaient au Brésil à ce moment-là, au moment de sa mort, attendaient qu'il arrive. Donc c'était prévu, n'est pas du tout prévu qu'il se suicide ou qu'il se tue.
Ah, elle
l'attendait, il devait repartir au Brésil. Elles étaient installées là-bas, dans une maison.
Pour refaire sa vie. Alors, le juge Philippe Janeda, vous le connaissez, le juge qui traitait tous ces dossiers, puisqu'on avait rassemblé tous les dossiers Sulac, ce qui était à l'époque un peu une première, hein, ouais. On rassemblait rarement les dossiers comme ça. C'est Yves Corneloup, qui a présidé d'ailleurs les assises à Paris. Dernier juge d'instruction, pour lui, c'est un immense gâchis, la mort de Sulac. Ce qui est incroyable de la part d'un juge d'instruction.
Ouais, Yves Corneloup a dit une phrase qui est une très belle phrase, mais alors sortie de la bouche de l'homme qui est censé punir le brigand. À la mort de Bruno Sulac, Yves Corneloup a dit « c'est un peu de pureté qui s'en va ».
À ce point-là.
Phrase ahurissante quand même pour quelqu'un qui... Mais c'est de l'ordre Georges Moréas, qui était censé poursuivre Bruno Sulac, qui l'a fait d'ailleurs, évidemment, a aussi... C'est encore plus frappant, pas des amitiés, on va dire, mais des affections, comme ça. Et le juge Corneloup, il y a une émission de télé qui a été consacrée à Bruno Sulac, il pleure quand il parle de Bruno Sulac. Enfin, il pleure. On sent qu'il retient ses larmes de parler de quelqu'un qui pourtant était censé juger et enfermer et punir.
Oui, parce qu'il dira, c'est quelqu'un qui a finalement, il ne devait pas avoir cette vie-là. Il a bifurqué au mauvais moment, mais il ne devait pas avoir cette vie-là, Sulac. Mais il a eu cette vie-là. On va conclure là-dessus. Philippe Janeda, en quoi ça reste un homme inclassable aujourd'hui, Sulac, dans l'histoire criminelle? Qu'est-ce qui fait de lui qu'on en parle aujourd'hui avec une espèce de compassion,
pour exemple. Alors, par exemple, on en parle beaucoup moins que Jacques Mérine, parce que oui, Bruno Sulac n'a non seulement jamais tué quelqu'un, mais il n'a même jamais... Bruno Sulac rentrait dans une bijouterie, la vendeuse avait peur et se fondait en larmes, il ressortait en disant « il y a d'autres bijouteries, n'ayez pas peur, j'irai en faire une autre ». Et donc, la non-violence, on l'a un peu... Moi, j'ai essayé avec mon livre de raconter sa vie, son histoire, mais le fait qu'il ait jamais tué personne, malheureusement, ça n'a pas contribué à sa réputation.
Et heureusement pour les victimes éventuelles, évidemment, de l'autre côté. Merci beaucoup Philippe Janeda, merci Georges Moréas d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime, merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.